Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence. Nous voulons adorer ta glorieuse et sainte personne. Nous te demandons ce matin que ton esprit nous éclaire, nous guide, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ta parole et surtout qu'elle nous donne les leçons à garder, à conserver, à appliquer dans nos vies de tous les jours pour que nous nous laissions transformer. Alors, notre Dieu, nous te prions d'être avec nous, de te manifester avec puissance au milieu de nous et de nous bénir abondamment tous et chacun et tous ceux qui, par ta providence, pourront nous écouter le web. Alors, Seigneur, on te demande de bénir cette journée. On te demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va continuer l'étude qu'on avait débutée la semaine dernière sur le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors, chapitre 13, versets 1 à 10. Alors, on va lire le texte. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes, comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle ?» Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits, dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, l'adorèrent. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Alors, on avait donné comme titre la semaine dernière au sermon, on sait qu'on est dans la deuxième partie, de ce passage de Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 10, on avait donné comme titre « La bête qui sort de la mer, les gouvernements des nations s'unissent pour vaincre l'Église. » Alors, on sait, d'après les Écritures et d'après aussi notre expérience de vie, que Satan a multiplié les tentatives de s'opposer au plan de Dieu. En faisant cela, il visait à établir son royaume sur la terre. Alors, on va résumer brièvement les efforts qu'il a fait dans le passé, qui se sont avérés être des échecs lamentables. D'abord, il a cherché à empêcher la naissance de Jésus-Christ, ce qui fut un lamentable échec, nous le savons par les évangiles qui nous racontent que Jésus a été protégé et, par Dieu et a envoyé son fils en Égypte. Alors, on sait toute cette histoire-là. Aussi, la Bible nous raconte, on l'a étudié dans les passages précédents, que Satan avait perdu la guerre dans le ciel contre Michel l'archange et qu'ils avaient été envoyés hors du ciel. Donc, c'est son deuxième échec, lamentable également. Et on sait qu'au cours de tous les siècles, Satan a cherché à faire des États et à permettre et à chercher à ce que les États contrôlent le christianisme en nommant les évêques ou des choses semblables ou en les contrôlant d'une façon ou d'une autre. Et on sait que malgré tous ces efforts, il y a eu un peu de succès, mais dans le fond, dans l'ensemble, il a lamentablement aussi, ça a été un échec aussi lamentable. Ce qu'on avait remarqué dans nos leçons précédentes, c'est que Satan a cherché, au cours de beaucoup de siècles, à éliminer ou à freiner ce qu'on pourrait appeler l'Église institutionnelle. Donc l'Église dans son ensemble, non pas les individus, mais vraiment l'Église dans son ensemble comme institution. Mais à force d'avoir des échecs, le diable a décidé de concentrer ses efforts maintenant, ses efforts de destruction sur les chrétiens individuels de la terre. Alors, bien entendu, il croit que par son moyen, il devancera Christ dans l'établissement de son royaume. Alors, la semaine dernière, on avait on avait lu le commentaire du pasteur et commentateur William Hendrickson, qui nous donne un excellent résumé de l'ensemble du chapitre 13 de l'Apocalypse. Et je pense que c'est nécessaire de le relire pour être dans le contexte de la signification globale de l'ensemble du chapitre 13. Voici ce qu'il dit, je le cite. Le chapitre 13 nous parle des agents ou des instruments dont se sert le dragon pour attaquer l'Église. Deux bêtes sont décrites. La première est un monstre horrible. La seconde a une apparence inoffensive, mais à cause de cela même, elle est plus dangereuse que la première. La première monte de la mer, la seconde de la terre. La première est la main de Satan, la seconde est son esprit. La première représente la force et la persécution de Satan qui opère dans ce monde par l'intermédiaire des nations et de leurs gouvernements. La seconde symbolise les fausses religions et les fausses philosophies qui ont cours dans ce monde. Les deux bêtes mènent la lutte contre l'Église tout au long de notre dispensation. Mais l'apôtre les dépeint dans des termes correspondant à la forme prise par ces bêtes à la fin du premier siècle. En Apocalypse chapitre 14, verset 8, apparaît un troisième acteur, Babylone, la prostituée. Satan emploie donc au total trois alliés dans le combat qu'il mène ici-bas. La persécution, les religions et la séduction antichrétienne. Alors, la semaine dernière, on avait regardé un tableau que je vous avais mis qui fait un parallèle, qui fait une comparaison entre la première bête et la deuxième bête, parce que la semaine prochaine, on va étudier à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, qui va être la deuxième bête. Dans le fond, j'avais fait un tableau qui comparait la première et la deuxième bête. Donc la première, c'était son lieu d'apparition, c'était de la mer. La semaine prochaine, on va regarder la deuxième bête que là, elle va sortir de la terre. Et si on compare leur apparence, la première bête, on dit qu'elle est vraiment monstrueuse, tandis que la deuxième va avoir une apparence inoffensive, mais cependant, ça va la rendre d'autant plus dangereuse. On regarde aussi l'action des deux bêtes. La première bête, on pouvait la qualifier de la main de Satan. Donc, c'était vraiment beaucoup plus l'utilisation de la force et de la persécution. Et l'action était surtout sur le corps et aussi l'utilisation du politique. Tandis que la deuxième bête, on pourrait plus qualifier de l'esprit de Satan, C'est vraiment l'utilisation massive du mensonge et de la séduction. Donc, son action se situe plus sur l'esprit. Et il va utiliser beaucoup plus le religieux. Donc, les fausses doctrines, les fausses religions, les fausses philosophies. Quand on regarde à quelle époque agit la première bête et à quelle époque agit la deuxième bête, on pourrait dire que, dans le fond, les deux bêtes agissent de la même façon. Elles agissent, toutes les deux, dans tous les siècles. Parce que Satan, au cours de l'histoire, a toujours utilisé les deux méthodes, soit simultanément, donc en même temps, ou soit successivement. Donc, à un moment donné, au cours d'une période de l'histoire, il peut mettre plus l'accent sur le politique et l'action sur le corps, tandis que d'autres fois, il peut mettre plus agir sur, par la séduction, agir sur l'esprit. Donc, dans tous les siècles, il a utilisé les deux méthodes, comme on vient de le mentionner, soit simultanément, les deux en même temps, ou soit successivement, ou soit qu'il a mis l'accent plus sur une méthode au cours d'un siècle qu'au cours de l'autre, ou qu'il a, au cours de l'histoire, géographiquement, agi différemment, dépendamment des pays dans lesquels il agit, etc. Donc on voit que, dans le fond, c'est vraiment les deux méthodes, mais qui n'ont pas été utilisées de façon vraiment très, très, très délimitée parfois. Des fois c'est délimité, des fois non. Alors, on peut regarder le chapitre 13 comme étant un chapitre qui peut nous amener à avoir peur et à penser que le diable va avoir la victoire. Cependant, les Écritures nous rassurent sur ce côté-là et c'est très important pour nous de réaliser pleinement cette affaire-là. On avait regardé un peu la semaine dernière le psaume 145, dans les versets 13 et 14, qui nous dit un principe extrêmement important pour nous de se rappeler en tout temps. Alors, psaume 145, versets 13 et 14. « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination dure dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui sont prêts de tomber, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » On va reviser rapidement ce qu'on avait regardé la semaine dernière dans les versets 1 à 3. Donc, on voit dans les versets 1 à 3 le point, c'est vraiment la bête, son apparition. Dans le verset 1, on lit « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. » On avait rappelé que le nombre 7 dans les Écritures évoque toujours la plénitude, la perfection, la puissance, la totalité et la gloire. Tandis que le nombre 10, lui, va souvent désigner l'ensemble, la totalité, la globalité, la somme, l'intégralité, l'entièreté, le maximum de quelque chose. Alors, quand on regarde pour la bête, son apparition, les Écritures nous mentionnent son lieu de naissance, son origine, sa source. Ça dit, la première partie du verset 1, « Et je vis monter de la mer. » Alors, les remarques qu'on pourrait faire, c'est que l'apparition se fait d'une façon graduelle. Monter, si une bête monte de la mer, à quelque part, on ne voit pas tout le monstre en même temps, il y a comme une graduation dans son apparition. Alors, ce qui nous fait... la question qu'on se pose en lisant ce verset-là, c'est la question suivante. Est-ce que le mot « mer » ici s'agit des océans ou d'une mer quelconque, d'eau, un grand amas d'eau duquel la bête sortirait, ou si vraiment c'est plus la mer utilisée dans un sens symbolique. Et souvent, quand on veut savoir qu'est-ce que le mot « mer » veut dire dans le contexte d'Apocalypse 13, verset 1, souvent les Écritures vont nous donner La réponse. Souvent, les Écritures interprètent les Écritures. Alors, il faut regarder dans d'autres chapitres, d'autres parties d'autres livres des Écritures, le sens que le Seigneur a donné au mot mère, qui souvent a un sens symbolique. Et nous croyons ici que c'est vraiment un sens symbolique. J'ai utilisé deux passages la semaine dernière pour parler un petit peu de cela, où quelqu'un aurait intérêt à les relire, Ésaïe 57, versets 20 et 21, où on parle des méchants et on les compare à une mer agitée. Et il y a aussi Daniel 7, versets 2 à 8, où aussi on utilise l'image de la mer pour parler des inconvertis. Alors, et je pense que la réponse finale, quant à l'interprétation que l'on doit donner au mot « mère », vient véritablement de Apocalypse 17, les versets 15 et 16. « Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues, et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront, et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. » Alors, tout indique ici que le mot « mère » dans notre passage fait référence aux nations et à leur gouvernement antichrétien. Comme jamais une seule nation n'a réussi à dominer toute la terre, les méchants ont fini par comprendre que la seule solution pour y arriver est de cesser la lutte entre eux pour la domination et d'unir leurs efforts pour réaliser le rêve de Nimrod de façon collective, donc chercher à établir un gouvernement mondial qui serait réalisé par coalition d'entre les plus forts. Coalition ou union des gouvernements les plus forts. Donc, on regarde que quand les Écritures nous parlent du verset 1 et du verset 2, ça nous dit que la bête qui va sortir de la mer, donc des nations, va avoir une puissance, ça va être une puissance politique qui va avoir des caractéristiques animales. Et parce que le verset 2 nous dit « Et la bête que je vis » ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. J'ai fait quelques recherches un peu sur Internet pour vérifier un peu la vitesse de course de ces différents animaux-là et même la comparer avec celle de l'homme. Ça donne des résultats, à ma foi, intéressants. Sur Internet, on dit que le léopard peut atteindre une vitesse de 60 km/h, l'ours, 40 km/h, le lion, 80 km/h sur une courte distance, et l'homme, 45 km/h. Alors, quand on voit, à quelque part, le léopard et le lion sont vraiment beaucoup plus rapides que l'homme. Et ça n'a pas été, je pense, utilisé par le Seigneur, ces mots-là, pour qualifier la bête en termes de ressemblance, uniquement pour parler de la vitesse, mais aussi pour parler de certaines caractéristiques que ces animaux-là ont. Alors, nous, on croit que cette unité des nations-là sera agile et rapide, comme le léopard, forte, féroce et brutale, comme l'ours, menaçante et intimidante, comme le lion. Ce gouvernement sera instrumentalement inspiré, soutenu et dirigé par Satan lui-même, qui va donner à ce gouvernement, cette coalition de gouvernement, il va lui donner sa force, son trône et le pouvoir du dragon. Donc, son pouvoir à lui. Maintenant, je pense que cette bête-là va vouloir maintenir un objectif qui est vieux comme la terre, comme on pourrait dire. Parce que dans le verset 3, ça dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. Alors le rêve pécheur des hommes de vouloir dominer l'ensemble du monde trouve sa première manifestation avec le roi Nimrod dans le livre de la Genèse. Les puissants de ce monde, des nations, ont toujours voulu réussir ce tour de force de façon individuelle ou par de très 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 petits groupes. Toute l'histoire de l'humanité illustre cette vérité. Comme par exemple, l'ancienne Babylone a essayé, la Syrie a essayé, l'Empire Médo-Perse a essayé, la Grèce a essayé, et la Rome antique a essayé. Et si on regarde un petit peu plus près de nous, nous pouvons citer la tentative de Napoléon, de Hitler, de Lénine, de Staline et de bien d'autres. Le pasteur et commentateur Herman Oxema voit dans la blessure de l'une des têtes de la bête comme étant la confusion des langues et l'éparpillement forcé des hommes au moyen des nations. Alors, celles-ci ont des aspirations qui sont différentes et, bien entendu, tout cela a fini par résulter en des guerres, des révolutions et des luttes violentes. Voici ce qu'il dit. Je vous la lis en anglais, c'est très court, et je la traduis ensuite. After many an individual power has made the attempt to gain the world power and to obtain control of the whole earth, the nations have finally come to the conclusion that the way of combination is the only way. Alors, j'avais fait traduire ça par Google et j'ai fait des petites corrections. Alors, après que de nombreuses puissances individuelles aient tenté de gagner la puissance mondiale et d'obtenir le contrôle de la terre entière, les nations sont finalement parvenues à la conclusion que la voie de la combinaison est la seule voie. Des groupes de puissants ont décidé de choisir d'unir leurs efforts au moyen d'une puissante fédération, d'une ligue puissante, avec des objectifs communs, mais en se séparant le gâteau, au lieu de s'entretuer pour l'obtenir individuellement. L'unité politique et la séduction sont choisis pour y arriver. Parce que ça nous dit, toute la terre étant dans l'admiration. Tout indique que le rêve pécheur des puissants ne sera pas atteint par la violence et la guerre, mais plutôt par la séduction. Quand ça nous dit, toute la terre étant dans l'admiration, à quelque part, je pense que ça vient nous prouver ce fait-là. La deuxième chose qu'on va regarder, deuxième point, c'est que la bête, elle se donne des noms, elle se comporte de certaines façons. Alors, on va regarder le premier point qu'elle mentionne dans le chapitre 4, c'est vraiment la prétention à l'adoration et à l'invincibilité. Ça dit dans le verset 4, « Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle? » La Bible est d'une clarté absolue. Seul Dieu a droit à l'adoration. La séduction est vraiment ici très complète. Les hommes adorent doublement Satan lui-même et le gouvernement dans lequel il s'est manifesté. Son arrogance et son péché sont à leur comble. Donc, première chose que la bête veut, elle prétend qu'elle a le droit à l'adoration et elle se prétend invincible, donc on peut pas, elle prétend qu'on ne peut pas la vaincre. Deuxième chose qu'on remarque quant à ses caractéristiques, c'est qu'elle a, dans le verset 5a, la première partie du verset 5, elle a une bouche qui est vraiment insolente, irrévérente et blasphématrice. Ça dit dans le verset 5a, et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Alors, ceux qui ont téléchargé les notes, vous allez pouvoir lire en annexe. J'ai mis un annexe dans lequel l'article, un article du dictionnaire biblique sur le mot blasphème. Alors, bien sûr, j'ai pas voulu tout lire l'article parce que c'est quand même assez long, mais j'ai quand même ici tiré juste les points les plus importants concernant la signification du mot blasphème. Mais je vous conseille de lire vraiment l'article de façon complète pour avoir une idée de ce que la Bible enseigne sur le mot blasphème. Alors, on pourrait dire que blasphémer, c'est tout d'abord porter atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un, en l'injuriant, en le calomniant, en le méprisant, ou même en le blâmant sans motif suffisant. D'une façon spéciale, le blasphème dans la Bible désigne toute atteinte portée en parole ou en acte à la majesté de Dieu, à l'honneur et au respect qui lui sont dus, ou au droit qu'il a sur la créature. Alors ici, c'est important de garder à l'esprit la signification du mot blasphémer, et parce que ça nous dit bien qu'on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Donc, à quelque part, tout ce qu'on vient de nommer, il parle contre Dieu d'une façon ou d'une autre, en l'injuriant, en le méprisant ou en le blâmant. Alors, c'est très important de réaliser qu'est-ce que le Satan est en train de faire. Et une autre caractéristique dans la deuxième partie du verset 5, donc le verset 5b, ça dit qu'il a un pouvoir pour faire la guerre, mais de façon vraiment délimitée par Dieu. Alors, ça dit dans le verset, la deuxième partie du verset 5, « Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. » C'est important de réaliser « on lui donna ». Donc, c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a permis qu'il exerce ce pouvoir-là. Et quand on dit de façon délimitée, c'est que le nombre de mois, le nombre, le temps qu'il va pouvoir agir est vraiment délimité par Dieu lui-même, qui est l'expression 42 mois. On a vu dans nos leçons précédentes que l'expression 42 mois ou 1260 jours était symbolique de toute la période entre l'ascension de Christ et sa deuxième venue. On sait que durant toute cette période-là, les guerres ont été nombreuses sur la terre et ont toujours trouvé leur motif dans le péché de l'homme sous l'inspiration de Satan lui-même. Autre caractéristique, c'est qu'il va avoir une opposition qui va être ouverte et systématique contre tout ce qui concerne Dieu, dans le verset 6. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Alors, le mot blasphémer revient à plusieurs reprises. Contre Dieu, contre son nom, contre son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Donc, quatre formes de blasphème. Dieu lui-même, le nom de Dieu, son tabernacle et aussi ceux qui habitent dans le ciel, ceux qui sont déjà dans le ciel, que ce soit des anges ou des hommes qui sont déjà en présence de Dieu. Alors, on voit ici qu'elle change donc radicalement d'attitude et elle oublie ses grands idéaux et ses beaux principes de respect des droits fondamentaux de l'être humain. Elle devient arrogante et s'oppose à Dieu lui-même. Excusez. Dans une autre caractéristique, c'est une persécution victorieuse sur les croyants. Victorieuse, dans mon texte, je l'ai mis entre guillemets, là, parce que ça semble une victoire, mais dans le fond, ça n'en est pas une. Ça dit encore une fois, « Il lui fut aussi donné. » Donc, autre chose à remarquer ici, c'est que c'est un pouvoir qui lui est donné, qui est permis par le Seigneur. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints, bien entendu, dans le texte ici, on parle des croyants en Jésus-Christ, régénérés, qui vivent sur la terre. Et ça dit que Dieu a permis qu'il fasse la guerre aux saints et qu'il ait une certaine victoire, qu'on pourrait dire. Alors, Satan va se servir de la puissance du gouvernement mondial pour faire taire les chrétiens, ou pour faire taire et pour aussi réduire l'impact de leur témoignage. Sa victoire, qu'on pourrait dire entre guillemets, semblera réelle. Mais la réalité est tout autre. C'est un autre lamentable échec. Parce que ça nous dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Très important de réaliser ici que peu importe ce que la puissance que le Seigneur va permettre que Satan exerce contre les croyants, important de réaliser que la seule chose qui peut aller, c'est dans l'attaque du corps. Le verset ici est extrêmement clair. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. On sait que si jamais Dieu permet que Satan et les personnes qui le suivent, qui lui obéissent, attaquent les chrétiens, la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est aller travailler sur le corps. Puis ça dit bien, ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps, et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Donc on peut se poser comme question, si jamais on vit à une époque où Dieu permettrait à Satan d'agir et d'avoir un pouvoir tel qu'il pourrait agir sur nous, sur notre corps, nous emprisonner, nous torturer, nous emmener, nous faire des problèmes extrêmement dangereux, extrêmement difficiles, un peu comme les premiers chrétiens des premiers siècles ont connu, ben il faut se rappeler la chose suivante. C'est que la force nécessaire pour résister aux assauts de Satan, il faut toujours se rappeler que nous allons trouver la solution dans la grâce de Dieu. C'est Dieu qui va permettre qu'on ait la force et tous les choses nécessaires pour être capable de traverser victorieusement ces périodes-là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va les connaître, mais ce n'est pas nécessairement exclu non plus. Autre caractéristique, c'est qu'il va obtenir une domination complète sur tous les incroyants de la terre. Autrement dit, il va établir son contrôle de façon absolue sur tous les êtres humains de la terre, à l'exception des croyants. Alors, ça dit, « Et il lui fut donné. » Encore une fois, remarquez, c'est toujours des choses qui lui sont données. « Et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation, et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que tous les hommes, sans exception, à part de ceux qui sont des véritables croyants, vont tomber, ils vont l'adorer, ils vont être séduits, ils vont être dans l'admiration et ils vont l'adorer. Alors, ça nous met vraiment en rapport ici avec la doctrine de la prédestination, de l'élection, et c'est des choses importantes à réaliser. Alors, tous les hommes vont finir par l'adorer, excepté les véritables croyants. Alors, tous les hommes non élus, avant la fondation du monde, succomberont et adoreront la créature au lieu du Créateur. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, dans les versets 8 à 12, nous rappelle ces vérités. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Dernier point qu'on va regarder, c'est vraiment la bête, son appréciation. Autrement dit, quand elle va apparaître, qu'est-ce qui va arriver à la fois aux incroyants et à la fois aux croyants? Donc l'appréciation, comment les gens vont apprécier son apparition. Et les Écritures nous donnent ici un avertissement qui est important à comprendre et à vouloir appliquer dans nos vies, à demander la grâce à Dieu. Ça dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. On sait bien entendu qu'on a tous des oreilles physiques, mais je pense ici il est en train de parler des oreilles spirituelles. Il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Alors, en préparant ma leçon, j'avais utilisé un texte, une étude de l'Apocalypse, qui a été faite par le pasteur Paulin Bédard de Saint-Georges, ici au Québec. Alors voici, je vais vous lire son commentaire, parce que je trouvais ça très intéressant, très éclairant, pour son étude de ce passage-là. Alors, je vous le cite. « Les croyants reçoivent l'ordre d'utiliser leurs oreilles afin de ne pas se laisser piéger par le compromis ou le laisser aller. Ils ont besoin de se faire secouer afin de reconnaître la nature satanique des institutions avec lesquelles ils acceptent de s'accommoder. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Que signifie ce verset énigmatique? Ce verset fusionne et adapte deux textes du prophète Jérémie. Jérémie 15, verset 2 et Jérémie 43, verset 11. Jérémie avait prophétisé à Israël que Dieu les avait destinés à aller en captivité et à souffrir de l'épée comme punition pour leur incrédulité et leur péché. Comment ces textes peuvent-ils s'appliquer à la persévérance des saints? Parmi ceux qui étaient allés en captivité et qui avaient souffert sous l'épée, certains étaient des fidèles du Seigneur. Dieu s'était gardé un reste fidèle en Israël. De même aujourd'hui, Dieu se garde un reste qui souffre sous les attaques du dragon et de la bête. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Cette phrase n'annonce pas un jugement contre les méchants, mais plutôt la souffrance du peuple fidèle du Seigneur. Le conseil de Dieu, qui assure le salut de son peuple, n'exclut pas les souffrances de l'Église par amour pour Jésus-Christ. Plutôt que de protester contre la souffrance, les saints vont se soumettre au décret de Dieu, qui, bien qu'incompréhensible, est toujours sage et bon. Les croyants pourraient réagir à cette souffrance au moyen de la résistance armée, mais la phrase suivante nous met en garde contre cela. La meilleure traduction dit ceci. Si quelqu'un doit être tué par l'épée il sera tué. C'est une allusion à la parole de Jésus en Matthieu 26, 52. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voici comment les croyants doivent réagir. Ils doivent demeurer fidèles dans la foi en endurant fidèlement les attaques et la persécution. Alors, je vais vous lire tout simplement les deux versets, les deux passages de Jérémie qu'on a mentionné tantôt, Jérémie chapitre 15, verset 2, qui dit « Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi a dit l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont pour l'épée, à la famine ceux qui sont pour la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. » Et nous avons également Jérémie, chapitre 43, verset 11, « Il viendra et il frappera le pays d'Égypte, à la mort ceux qui sont pour la mort, à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. » Alors, j'ai gardé trois applications à installer dans nos vies, des choses que les Écritures nous enseignent, mais on ne doit pas entendre un passage comme on vient d'écouter sans appliquer les choses dans nos vies pour se laisser transformer par la grâce de Dieu. La première application est la suivante. Prenons conscience que l'Antichrist est déjà à l'œuvre et depuis fort longtemps. On lit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. » Implorons le Seigneur de nous accorder le don de discernement pour mieux le combattre et mieux lui résister. Deuxième application. La pleine réalité du combat contre l'Église n'est pas encore entièrement accomplie. Sachons que nous n'aurons pas à combattre l'ennemi par les armes. Satan utilisera la ruse et la séduction pour tromper le monde. Les nations adhéreront au programme de Satan avec leur plein consentement et leur plein accord. Ils adoreront et admireront la bête. Troisième application, nous croyons que le temps de la fin approche par la religion mondiale, par le gouvernement mondial, par la monnaie mondiale, etc. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 et 3, nous disons, « Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Dieu et notre conscience seront nos guides pour les décisions difficiles qu'il y aura à prendre en ces moments-là. La lumière nécessaire et la grâce nous viendront d'en haut. Faisons confiance à Dieu et demeurons fidèles. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué, béni et adoré. Amen.